Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des flammes à la une de l'actualité ce matin. Flammes sur la côte ouest des États-Unis, que les incendies ravagent. Et ce n'est pas encore la saison, c'est ce que nous dira une expatriée outre-Atlantique. Du feu également dans le camp de migrants de Moria à Lesbos depuis deux nuits en Grèce. Ce sont probablement des demandeurs d'asile qui ont provoqué ces incendies pour protester contre leur confinement. Nous irons sur place. Nous entendrons ensuite un médecin de Marseille face à la progression de l'épidémie en France. Le conseil scientifique met en garde face au Covid-19. Et puis, un suspect a été arrêté 38 ans après l'attentat rue des Rosiers à Paris. Les familles des victimes restent toutefois prudentes quant à l'organisation d'un procès, vous l'entendrez. Écoutons donc d'abord ce qu'il se passe sur la côte ouest des États-Unis. Elle brûle encore sous de gigantesques incendies sans précédent. De la Californie jusqu'à l'État de Washington, ces feux entraînent des milliers d'évacuations. À San Francisco, à 80 km des flammes, les 5 millions d'habitants de l'agglomération ont passé toute la journée d'hier dans un épais nuage de fumée orange, quasi apocalyptique, comme en témoigne Julie Lavenne, une Française installée à San Francisco.
C'est un mélange de brouillard et de particules de feu. Et du coup, il y a une espèce de chape qui est sur la ville. Il y a un ciel un peu orangé, mais on voit rien. Et c'est comme s'il faisait nuit. Tout le monde, en se réveillant à 8h du matin, je me demandais s'il n'était pas à 4h. Je me réveillais en pleine nuit. Non, pas du tout. Il était à 8h. Et puis, ça n'a pas bougé depuis. On distingue à peine downtown. Une sensation très, très étrange. Très, très étrange. Tout le monde parle de l'apocalypse. Que c'est la fin du monde, qu'on est sur Mars. Enfin, c'est une lumière, une luminosité vraiment qui fait peur. Tous les jours, on a l'impression qu'il y a un nouvel incendie qui arrive et qui est incontrôlable et qu'en fait, il met en danger. Il y a des évacués partout, partout, partout. Et c'est même pas la saison des incendies. Normalement, c'est plus tard. Ah non, c'est apocalyptique.
Voilà pour le témoignage de cette Française expatriée à San Francisco, Julie Leven, interrogée par Grégory Phillips. Des flammes aussi sur l'île de Lesbos en Grèce. Le plus grand camp de réfugiés d'Europe a été ravagé par des incendies hier matin. Les quelques 12 000 réfugiés qui s'y entassaient se retrouvent maintenant dans une situation encore plus précaire. Marie-Pierre Véraud, notre envoyée spéciale sur place, nous raconte.
Plusieurs incendies vite devenus incontrôlables ont en fait démarré simultanément en différents points, une première fois dans la nuit de mardi à mercredi, puis hier soir de nouveau, détruisant les quelques abris qui n'avaient pas encore été réduits en cendres. En longue colonne, les quelques 12 000 réfugiés, hommes, femmes, enfants, ont dû fuir au cœur de la nuit, jetés dans un nouvel exode. Le gouvernement grec a apporté des tentes, des bateaux ont été dépêchés pour abriter les plus vulnérables, mais beaucoup ont passé la nuit dans les champs. S'agit-il d'incendies criminels ? Des responsables grecs accusent les migrants opposés au contrôle sanitaire après des cas de Covid, d'autres des habitants excédés. Pour Médecins sans frontières, la cause des flammes ne fait aucun doute. C'est le résultat de plusieurs années de souffrance et de violence produites par les politiques migratoires européennes et grecques. Changeront-elles ? Seuls les mineurs isolés ont pu quitter l'île. La Grèce entend reconstruire à Lesbos un nouveau camp fermé et plus contrôlé.
Et en Europe, une certaine solidarité se met en place après cet incendie. L'Union européenne financera par exemple l'hébergement de 400 mineurs. En Allemagne, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier spontanément dans plusieurs villes pour exiger des autorités de prendre en charge des migrants. Le monde a perdu plus des deux tiers de ses populations d'animaux sauvages en moins de 50 ans. Le Fonds mondial pour la nature, le WWF, pointe les dangers de cet effondrement pour l'avenir de l'humanité en expliquant rapport à l'appui, que cette perte est en grande partie la faute de l'activité humaine. Entre 1970 et 2016, 68% de cette faune sauvage a disparu, une chute de la biodiversité particulièrement visible en Amérique du Sud. C'est une histoire qui se termine avant même d'avoir commencé. LVMH ne rachètera finalement pas Tiffany, célèbre joaillier américain. Cette transaction de prestige avait été annoncée en grande pompe en novembre dernier pour un montant record, plus de 16 milliards de dollars. C'était sans compter la crise sanitaire, Loïc Loury.
En novembre dernier, la promesse de Bernard Arnault, celle de la prospérité pour les siècles à venir, avait de quoi ravir le joaillier new-yorkais. Mais aujourd'hui, l'idylle s'est transformée en bras de fer. La faute, selon LVMH, à une succession d'événements de nature à fragiliser l'opération d'acquisition. Le groupe évoque la menace de taxes américaines sur certains produits français et la demande formulée en réaction par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de repousser la transaction au 6 janvier prochain. Pour LVMH, Marrakech. Cette porte de sortie incontestablement est bonne à prendre car Tiffany a perdu une partie de sa valeur à cause de la crise sanitaire, suite notamment à la fermeture de ses magasins pendant des mois. Entre février et avril, la perte nette s'élève ainsi à 65 millions de dollars contre un bénéfice de 125 millions un an plus tôt et son cours 115 dollars par action ce matin est loin des 135 prévus au départ. En face, le joaillier lui ne compte pas se laisser faire, il assure que son activité est solide et il attaque surtout LVMH en justice sur le sol américain pour forcer sa propre vente et réaliser la promesse faite par le patron du groupe français.
Loïc Loury pour France Culture. Le gouvernement français va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum. C'est le président du Conseil scientifique qui le dit, l'organe chargé de conseiller l'exécutif dans sa gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus. Jean-François Delfraissy évoque des modélisations mathématiques qui montrent que les services de réanimation pourraient localement connaître des difficultés et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le professeur Nicolas Bruder est lui chef du pôle anesthésie-réanimation à Marseille, à l'hôpital de la Timone, et il partage cette crainte.
Alors, le constat, c'est qu'on risque sûrement d'être en difficulté, on l'est déjà un petit peu, mais on risque de l'être. Jusqu'à quel niveau, c'est très difficile à dire. Après, les modèles mathématiques, ils aident un peu, mais enfin, on a vu lors de la période précédente que les modèles mathématiques, ils sont extrêmement imparfaits. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a beaucoup de malades hospitalisés, au bout d'un moment, il y a beaucoup de malades en réanimation, et donc ça crée évidemment des problèmes pour le reste de l'activité. Et c'est ça qui complique les choses actuellement, c'est qu'on a repris une activité, je dirais, hors Covid, normale, avec beaucoup de traumatisés, avec de l'activité chirurgicale, avec des urgences variées. Et par-dessus, il faut faire de la place pour les Covid. Et ça, au bout d'un moment, ben, évidemment, ça devient très difficile. Donc, on va faire face, on va dire, sûrement dans la semaine qui vient, sûrement dans 15 jours. Mais il ne faut pas que ça augmente trop, parce qu'effectivement, il y a un moment où, comme ça s'est passé dans l'Est, on risque d'être débordé si ça continue à augmenter.
Des propos recueillis par Marc Baudevin. Le nombre de cas graves en réanimation est ce matin de 599, soit 71 de plus en 24 heures. Au gré des contaminations, les établissements scolaires et ou les classes continuent fermés au compte-gouttes un peu partout en France et les enfants continuent de rester à la maison. Pour s'en occuper, le gouvernement annonce que les salariés du privé dans l'impossibilité de télétravailler seront placés en activité partielle. Ils pourront ainsi bénéficier d'un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. C'est ce qu'explique le ministère des Solidarités et de la Santé. Un suspect arrêté 38 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. C'était le premier acte terroriste du premier septennat de François Mitterrand. 6 personnes étaient mortes, 22 blessées en 1982. L'homme arrêté hier par la police norvégienne pourrait être Walid Abdulrahman Abdouzayed, dont la France demandait depuis plusieurs années l'extradition, Anne Fauquemberg.
Les espoirs se sont en effet heurtés à plusieurs refus d'extradition ces dernières années. De la Jordanie, où se trouveraient 2 autres suspects, dont le cerveau présumé, mais aussi de la Norvège. En 2015, une première demande d'extradition de Walid Abdulrahman Abouzayed avait échoué, le pays ne livrant pas ses ressortissants. Depuis, la législation a évolué, elle laisse entrevoir cette possibilité, ce qui soulage Romain Boudet, l'avocat de 2 proches de victimes, et d'autant plus que cette nouvelle arrive quelques semaines après la déclassification de documents provenant des archives de Matignon et du ministère des Armées. Des documents qui, selon lui, attestent d'un accord secret de cessez-le-feu entre les renseignements français et la branche dissidente de l'Organisation de Libération de la Palestine.
On a la preuve de ces rencontres et de ces négociations, ce qui a toujours été contesté auparavant par les autorités françaises. Et évidemment, si l'idée de cet accord dans les années 80 était d'offrir une forme de tranquillité aux organisations terroristes, nos clients s'inquiétaient de savoir si cet accord serait toujours en vigueur aujourd'hui et si elle bénéficierait d'une forme de mansuétude de la part des autorités judiciaires ou des autorités policières sur la foi d'un accord passé il y a 3 dizaines d'années. Ça n'est semble-t-il pas le cas. Aujourd'hui, les choses ont bien progressé.
Reste que 38 ans après les faits, le temps presse pour l'organisation d'un procès dont on est encore loin. Selon Rémi Boudet, certains proches de victimes sont déjà décédés sans connaître l'issue de cette affaire.
Ce procès-là a lieu un peu moins de 6 ans après les faits, procès des attentats de janvier 2015. Depuis 2 jours, les survivants de la tuerie de Charlie Hebdo, première cible des terroristes, les survivants témoignent à la barre. Ils se sont succédés hier encore, compte rendu de cette audience dans le journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Ce matin, sachez que ce sont les proches des personnes décédées qui vont commencer à livrer leurs témoignages. Quelques nuages bas, parfois humides, vont planer sur le nord de la Loire ce matin, des orages sur le sud-est, des éclaircies sur l'ouest, avec 15 degrés à Dijon ce matin, 16 à Lille et Brest, 19 à Paris, 21 à Perpignan.